Ils arrivaient à la salle à manger, une immense pièce à colonnes de marbre, aux murs tendus de vieux gobelins. Walter aperçut son chroniqueur et s'élança pour lui prendre les mains. Il était ivre de joie. « Ah ! Avez-vous tout vu ?»« Dis, Suzanne, lui as-tu tout montré ? Que de monde, n'est-ce pas, belle amie ? Avez-vous vu le prince de Guerche ? Il est venu boire un verre de punch tout à l'heure. » Puis il s'élança vers le sénateur Rissolin, qui traînait sa femme étourdie et ornée comme une boutique foraine. Un monsieur saluait Suzanne, un grand garçon mince, à favoris blonds, un peu chauve, avec cet air mondain qu'on reconnaît partout. Georges l'entendit nommer le marquis de Cazolles. Et il fut brusquement jaloux de cet homme. Depuis quand le connaissait-elle ? Depuis sa fortune, sans doute. Il devinait un prétendant. On le prit par le bras. C'était Norbert de Varenne. Le vieux poète promenait ses cheveux gras et son habit fatigué d'un air indifférent et las.
« Voilà ce qu'on appelle s'amuser, » dit-il. « Tout à l'heure, on dansera, et puis on se couchera, et les petites filles seront contentes. Prenez du champagne, il est excellent. »
Il se fit emplir un verre, et saluant du roi qui en avait pris un autre.
« Je bois à la revanche de l'esprit sur les millions. » Puis il ajouta d'une voix douce, « Non pas qu'il me gêne chez les autres, ou que je leur en veuille, mais je proteste par principe. »
Georges ne l'écoutait plus. Il cherchait Suzanne, qui venait de disparaître avec le marquis de Cazolles. Et quittant brusquement Norbert de Varenne, il se mit à la poursuite de la jeune fille. Une cohue épaisse qui voulait boire l'arrêta. Comme il l'avait enfin franchi, il se trouva nez à nez avec le ménage de Marel. Il voyait toujours la femme, mais il n'avait pas rencontré depuis longtemps le mari, qui lui saisit les deux mains.
« Que je vous remercie, mon cher, du conseil que vous m'avez fait donner par Clotilde. J'ai gagné près de 100 000 francs avec l'emprunt marocain. C'est à vous que je les dois. On peut dire que vous êtes un ami précieux. »
Des hommes se retournaient pour regarder cette brunette élégante et jolie. Du roi répondit, « En échange de ce service, mon cher, je prends votre femme, ou plutôt, je lui offre mon bras. Il faut toujours séparer les époux. » Monsieur de Marel s'inclina,
« C'est juste. Si je vous perds, nous nous retrouverons ici dans une heure. »
« Parfaitement. » Et les deux jeunes gens s'enfoncèrent dans la foule, suivis par le mari. Clotilde répétait, « Quel vénard que c'est Walter. Ce que c'est tout de même que d'avoir l'intelligence des affaires. » Georges répondit, « Bah, les hommes forts arrivent toujours, soit par un moyen, soit par un autre. » Elle reprit, « Voilà deux filles qui auront de 20 à 30 millions chacune, sans compter que Suzanne est jolie. » Il ne dit rien. Sa propre pensée, sortie d'une autre bouche, l'irritait. Elle n'avait pas encore vu Jésus marchant sur les flots. Il proposa de l'y conduire. Il s'amusait à dire du mal des gens, à se moquer des figures inconnues. Saint Potin passa près d'eux, portant sur le revers de son habit des décorations nombreuses, ce qui les amusa beaucoup. Un ancien ambassadeur, venant derrière, montrait une brochette moins garnie. Du roi déclara « Quelle salade de société !» Boisrenard, qui lui serra la main, avait aussi orné sa boutonnière du ruban vert et jaune sorti le jour du duel. La vicomtesse de Percemur, énorme et parée, causait avec un duc dans le petit boudoir Louis XVI. Georges murmura « Un tête-à-tête galant ». Mais en traversant la serre, il revit sa femme assise près de la roche Mathieu, presque cachée tous deux derrière un bouquet de plantes. Il semblait dire « Nous nous sommes donné un rendez-vous ici, un rendez-vous public, car nous nous fichons de l'opinion. » Madame de Marel reconnut que ce Jésus de Karl Markovitch était très étonnant, et ils revinrent. Ils avaient perdu le mari. Il demanda « Et Laurine, est-ce qu'elle m'en veut toujours ?»« Oui, toujours autant. Elle refuse de te voir et s'en va quand on parle de toi. » Il ne répondit rien. L'inimitié de cette fillette le chagrinait et lui pesait. Suzanne les saisit au détour d'une porte, criant.
« Ah, vous voilà ! Eh bien, belle amie,
Vous allez rester seule. J'enlève la belle Clotilde pour lui montrer ma chambre. » Et les deux femmes s'en allèrent, d'un pas pressé, glissant à travers le monde, de ce mouvement onduleux, de ce mouvement de couleuvre qu'elles savent prendre dans les foules. Presque aussitôt, une voix murmura « Georges !» C'était Madame Walter. Elle reprit très bas « Oh, que vous êtes férocement cruelle! Que vous me faites souffrir inutilement! J'ai chargé Suzette d'emmener celle qui vous accompagnait afin de pouvoir vous dire un mot. Écoutez, il faut que je vous parle ce soir. Ou bien vous ne savez pas ce que je ferai. Allez dans la serre. Vous y trouverez une porte à gauche et vous sortirez dans le jardin. Suivez l'allée qui est en face. Tout au bout, vous verrez une tonnelle. Attendez-moi là, dans 10 minutes. Si vous ne voulez pas, je vous jure que je fais un scandale ici tout de suite. » Il répondit avec hauteur. « Soit, je serai dans 10 minutes, à l'endroit que vous m'indiquez. » Et ils se séparèrent. Mais Jacques Rival faillit le mettre en retard. Il avait pris par le bras et lui racontait un tas de choses avec l'air très exalté. Il venait sans doute du buffet. Enfin, Duroy le laissa aux mains de Monsieur de Marelle, retrouvé entre deux portes, et il s'enfuit. Il lui fallut encore prendre garde de n'être pas vu par sa femme et par Laroche. Il y parvint, car il semblait fort animé, et il se trouva dans le jardin. L'air froid le saisit comme un bain de glace. Il pensa « Christi, je vais attraper un rhume !» Et il mit son mouchoir à son cou en manière de cravate. Puis il suivit à pas lents l'allée, y voyant mal au sortir de la grande lumière des salons. Il distinguait à sa droite et à sa gauche des arbustes sans feuilles dont les branches menues frémissaient. Des lueurs grises passaient dans ses ramures, des lueurs venues des fenêtres de l'hôtel. Il aperçut quelque chose de blanc au milieu du chemin devant lui, et Madame Walter, les bras nus, la gorge nue, balbutia d'une voix frémissante « Ah, te voilà, tu veux donc me tuer ?» Il répondit tranquillement « Je t'en prie, pas de drame, n'est-ce pas ? Ou je fiche le camp tout de suite ?» Elle l'avait saisi par le cou, et les lèvres tout près des lèvres, elle disait « Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Tu te conduis avec moi comme un misérable, qu'est-ce que je t'ai fait ?» Il essayait de la repousser. « Tu as entortillé tes cheveux à tous mes boutons la dernière fois que je t'ai vu, et ça a failli amener une rupture entre ma femme et moi. » Elle demeura surprise, puis faisant non de la tête. « Oh, ta femme s'en moque bien. C'est quelqu'une de tes maîtresses qui t'aura fait une scène. Je n'ai pas de maîtresse. Tais-toi donc. Mais pourquoi ne viens-tu plus même me voir? Pourquoi refuses-tu de dîner, rien qu'un jour par semaine avec moi? C'est atroce ce que je souffre. Je t'aime à n'avoir plus une pensée qui ne soit pour toi, à ne pouvoir rien regarder sans te voir devant mes yeux, à ne plus oser prononcer un mot sans avoir peur de dire ton nom. Tu ne comprends pas ça, toi. Il me semble que je suis prise dans des griffes, nouée dans un sac, je ne sais pas. Ton souvenir, toujours présent, me serre la gorge, me déchire quelque chose là, dans la poitrine, sous le sein, me casse les jambes, à ne plus me laisser la force de marcher. Et je reste comme une bête toute la journée sur une chaise en pensant à toi. » Il la regardait avec étonnement. Ce n'était plus la grosse gamine folâtre qu'il avait connue, mais une femme éperdue, désespérée, capable de tout. Un projet vague, cependant, naissait dans son esprit. Il répondit « Ma chère, l'amour n'est pas éternel. On se prend et on se quitte. Mais quand ça dure comme entre nous, ça devient un boulet horrible. Je n'en veux plus. Voilà la vérité. Cependant, si tu sais devenir raisonnable, me recevoir et me traiter ainsi qu'un ami, je reviendrai comme autrefois. Te sens-tu capable de ça ?» Elle posa ses deux bras nus sur l'habit noir de Georges et murmura « Je suis capable de tout pour te voir. » « Alors c'est convenu, dit-il. Nous sommes amis, rien de plus. » Elle balbutia « C'est convenu. » Puis tendant ses lèvres vers lui, « Encore un baiser. Le dernier. Il refusa doucement. Non, il faut tenir nos conventions. Elle se détourna en essuyant de larmes, puis tirant de son corsage un paquet de papier noué avec un ruban de soie rose, elle l'offrit à Duroy. Tiens, c'est ta part de bénéfice dans l'affaire du Maroc. J'étais si contente d'avoir gagné cela pour toi. Tiens, prends le don. Il voulait refuser. Non, je ne recevrai point cet argent. Alors elle se révolta. Ah, tu ne me feras pas ça maintenant. Il est à toi, rien qu'à toi. Si tu ne le prends point, je le jetterai dans un égout. Tu ne me feras pas cela, Georges. Il reçut le petit paquet et le glissa dans sa poche. Il faut rentrer, dit-il. Tu vas attraper une fluxion de poitrine. Elle murmura. Tant mieux, si je pouvais mourir. Elle lui prit une main, la baisa avec passion, avec rage, avec désespoir, et elle se sauva vers l'hôtel. Il revint doucement en réfléchissant, puis il rentra dans la serre, le front hautain, la lèvre souriante. Sa femme et Laroche n'étaient plus là. La foule diminuait. Il devenait évident qu'on ne resterait pas au bal. Il aperçut Suzanne qui tenait le bras de sa sœur. Elles vinrent vers lui toutes les deux pour lui demander de danser le premier quadrille avec le comte de La Tour-Yvelin. Il s'étonna. Qu'est-ce encore que celui-là? Suzanne répondit avec malice. C'est un nouvel ami de ma sœur. Rose rougit et murmura. Tu es méchante, Suzette. Ce monsieur n'est pas plus mon ami que le tien. L'autre souriait. Je m'entends. Rose, fâchée, leur tourna le dos et s'éloigna. Duroy prit familièrement le coude de la jeune fille restée près de lui et de sa voix caressante. « Écoutez, ma chère petite, me croyez-vous bien votre amie ?»« Mais oui, belle amie. »« Vous avez confiance en moi ?»« Tout à fait. Vous vous rappelez ce que je vous disais tantôt. »« À propos de quoi ?»« À propos de votre mariage. »« Ou plutôt de l'homme que vous épouserez. »« Oui. »« Eh bien, voulez-vous me promettre une chose ?»« Oui, mais quoi ?» C'est de me consulter toutes les fois qu'on demandera votre main et de n'accepter personne sans avoir pris mon avis. Oui, je veux bien. Et c'est un secret entre nous deux. Pas un mot de ça à votre père ni à votre mère. Pas un mot. C'est juré? C'est juré. Rival arrivait, l'air affairé.
Mademoiselle, votre papa vous demande pour le bal.
Elle dit, allons, belle amie. Mais il refusa, décidé à partir tout de suite, voulant être seul pour penser. Trop de choses nouvelles venaient de pénétrer dans son esprit et il se mit à chercher sa femme. Au bout de quelque temps, il l'aperçut, qui buvait du chocolat au buffet, avec deux messieurs inconnus. Elle leur présenta son mari, sans les nommer à lui. Après quelques instants, il demanda « Partons-nous ? Quand tu voudras ?» Elle prit son bras, et ils retraversèrent les salons où le public devenait rare. Elle demanda « Où est la patronne ? Je voudrais lui dire adieu. » « C'est inutile. Elle essaierait de nous garder au bal et j'en ai assez. » « C'est vrai. Tu as raison. » Tout le long de la route, ils furent silencieux. Mais aussitôt rentrés en leur chambre, Madeleine souriante lui dit, sans même ôter son voile, « Tu ne sais pas ? J'ai une surprise pour toi. » Il grogna avec mauvaise humeur. « Quoi donc ? Devine ? Je ne ferai pas cet effort. »« Eh bien, c'est après-demain, le 1er janvier. »« Oui, c'est le moment des étrennes. »« Oui. Voici les tiennes, que Laroche m'a remises tout à l'heure. » Elle lui présenta une petite boîte noire qui semblait un écrin à bijoux. Il l'ouvrit avec indifférence et aperçut la croix de la Légion d'honneur. Il devint un peu pâle, puis il sourit et déclara « J'aurais préféré 10 millions, cela ne lui coûte pas cher. » Elle s'attendait à un transport de joie, et elle fut irritée de cette froideur. « Tu es vraiment incroyable, rien ne te satisfait maintenant. » Il répondit tranquillement « Cet homme ne fait que payer sa dette, et il me doit encore beaucoup. » Elle fut étonnée de son accent et reprit « C'est pourtant beau, à ton âge ?» Il déclara « Tout est relatif, je pourrais avoir davantage aujourd'hui. » Il avait pris l'écrin, il le posa tout ouvert sur la cheminée, considéra quelques instants l'étoile brillante couchée dedans, puis il le referma et se mit au lit en haut sans les épaules. L'officiel du 1er janvier annonça en effet la nomination de M. Prosper Georges Duroy, publiciste, au grade de chevalier de la Légion d'honneur pour services exceptionnels. Le nom était écrit en deux mots, ce qui fit à Georges plus de plaisir que la décoration même. Une heure après avoir lu cette nouvelle devenue publique, il reçut un mot de la patronne qui le suppliait de venir dîner chez elle, le soir même avec sa femme, pour fêter cette distinction. Il hésita quelques minutes, puis jetant au feu ce billet écrit en termes ambigus, il dit à Madeleine « Nous dînerons ce soir chez les Walter ». Elle fut étonnée. « Tiens, mais je croyais que tu ne voulais plus y mettre les pieds ». Il murmura seulement « J'ai changé d'avis ». Quand ils arrivèrent, la patronne était seule dans le petit boudoir Louis XVI adopté pour ses réceptions intimes. Vêtue de noir, elle avait poudré ses cheveux, ce qui la rendait charmante. Elle avait l'air de loin d'une vieille, de près d'une jeune et, quand on la regardait bien, d'un joli piège pour les yeux. « Vous êtes en deuil ?» demanda Madeleine. Elle répondit tristement « Oui et non. Je n'ai perdu personne des miens, mais je suis arrivée à l'âge où on fait le deuil de sa vie. Je le porte aujourd'hui pour l'inaugurer. Désormais, je le porterai dans mon cœur. » Duroy pensa « Ça tiendra-t-il, cette résolution-là » Le dîner fut un peu morne. Seule Suzanne bavardait sans cesse. Rose semblait préoccupée. On félicita beaucoup le journaliste. Le soir, on s'en alla, errant et causant par les salons et par la serre. Comme Duroy marchait derrière avec la patronne, elle le retint par le bras. «
Écoutez, » dit-elle à voix basse, « je ne vous parlerai plus de rien, jamais. Mais venez me voir, Georges. Vous voyez que je ne vous tutoie plus. Il m'est impossible de vivre sans vous, impossible. C'est une torture inimaginable. Je vous sens, je vous garde dans mes yeux, dans mon cœur et dans ma chair tout le jour et toute la nuit. C'est comme si vous m'aviez fait boire un poison qui me rongerait en dedans. Je ne puis pas. Non, je ne puis pas. Je veux bien être pour vous qu'une vieille femme. Je me suis mise en cheveux blancs pour vous le montrer. Mais venez ici, venez de temps en temps en amie. » Elle lui avait pris la main et elle la serrait, la broyait, enfonçant ses ongles dans sa chair. Il répondit avec calme « C'est entendu. Il est inutile de reparler de ça. Vous voyez bien que je suis venu aujourd'hui tout de suite sur votre lettre. » Walter, qui allait devant avec ses deux filles et Madeleine, attendit Duroy auprès du Jésus marchant sur les flots.
« Figurez-vous, dit-il en riant, que j'ai trouvé ma femme hier à genoux devant ce tableau comme dans une chapelle. Elle faisait là ses dévotions, ce que j'ai ri. »
Madame Walter répliqua d'une voix ferme, d'une voix où vibrait une exaltation secrète.
« C'est ce Christ-là qui sauvera mon âme. Il me donne du courage et de la force toutes les fois que je le regarde. »
Et s'arrêtant en face du Dieu debout sur la mer, elle murmura «
Comme il est beau, comme ils en ont peur et comme ils l'aiment, ces hommes. Regardez donc sa tête, ses yeux, comme il est simple et surnaturel en même temps. »
Suzanne s'écria
« Mais il vous ressemble, belle amie. Je suis sûre qu'il vous ressemble. Si vous aviez des favoris ou bien s'il était rasé, vous seriez tout pareil, tous les deux. Oh, mais c'est frappant !»
Elle voulut qu'il se mît debout, à côté du tableau, et tout le monde reconnut en effet que les deux figures se ressemblaient. Chacun s'étonna. Walter trouva la chose bien singulière. Madeleine, en souriant, déclara que Jésus avait l'air plus viril. Madame Walter demeurait immobile, contemplant d'un œil fixe le visage de son amant à côté du visage du Christ, et elle était devenue aussi blanche que ses cheveux blancs.